Gustave le Rouge, le guet-apens. Un groupe de capitalistes yankees avait décidé la création d'une ville à Juggle Creek, en pleine prairie, au pied des montagnes rocheuses. Un mois ne s'était pas écoulé que la nouvelle cité, encore sans maison, était déjà reliée par trois lignes au réseau ferré de l'Union. Les travailleurs accouraient dès le deuxième mois. Trois églises étaient édifiées, deux théâtres en pleine exploitation, et autour d'une place où subsistaient quelques beaux arbres, espoir d'un square pittoresque, les carcasses d'acier des maisons à 30 étages commençaient à s'aligner. C'était une vraie forêt de mâts métalliques bruissantes nuit et jour, de la cadence des marteaux, du grincement des treuils et du halètement des machines. Paul Martin, un jeune ingénieur venu de France, avait été chargé d'une gigantesque installation d'électricité. Il prenait du plaisir presque enfantin à voir sortir de terre, pour ainsi dire d'heure à heure, la ville nouvelle, éclose en plein désert au soleil des milliards. Tout de suite, le courant de Creek actionna une usine d'énergie électrique et la ville eut de la lumière avant d'avoir des habitations. En dehors de ces travaux absorbants, Paul prenait plaisir à passer ses soirées chez un architecte yankee dont le hasard avait fait son voisin. Glacial d'aspect et de manière, Jonas Frywell était à sa façon un aimable homme, un peu trop exclusif, un peu trop businessman, mais curieux de toutes les choses de la vieille Europe, et véritablement dévoué à Paul dont il appréciait hautement le talent et l'esprit d'initiative. Jonas Frequel, veuve depuis 2 ans, était père d'une charmante jeune fille, blonde et menue, distinguée et gracieuse, comme savent l'être les Américaines quand elles se mêlent d'être jolies. Là-bas, tout va vite. Au bout d'une semaine, Paul et Annabelle étaient bons camarades. Au bout de 15 jours, ils étaient fiancés et le mariage devait avoir lieu à la fin du mois. Un ami de la maison, le docteur Karl Krumann, paraissait prendre un vif intérêt à cette idylle. Généralement grognon, un peu misanthrope même, il réservait toute sa bonne humeur pour le jeune couple qu'il comblait de cadeaux et d'attention. De prime abord, le docteur légèrement boiteux et entièrement chauve, avec ses yeux couleur de bile et sa face osseuse et glabre, était plutôt antipathique. Mais tous les cœurs venaient à lui dès qu'il se donnait la peine d'être aimable. Ajoutons, pour la clarté du récit, que le docteur habitait le 20e étage d'une maison dont le sommet seul était terminé. En Amérique, on commence les murailles par en haut. Une fois le bâti d'acier mis en place et les ascenseurs installés, et c'est par le rez-de-chaussée qu'on termine. C'est un spectacle fantastique que celui de ces logis aériens juchés comme des nids d'oiseaux au sommet des géantes poutrelles de l'acier, pendant que les ouvriers, parfois même comblent avec des rangs de briques, parfois même avec de simples plaques d'aluminium, les interstices de la charpente métallique. Le mariage devait avoir lieu dans 3 jours. Lorsque le malheureux Frigoual fut assassiné, il était allé à la succursale provisoire de la banque en retirer la liasse de banque-notes qui devait servir à constituer la dot d'Annabelle, et les fiancés attendaient vainement son retour. Annabelle était ruinée. Tristement, elle déclara à Paul qu'elle ne pouvait plus se marier. « Je suis sans fortune, dit-elle. Il n'est que net de ma part de vous rendre votre liberté. »« Jamais de la vie !» s'écria avec indignation Paul. « Je vous aime et je vous épouserai, quoi qu'il arrive. »«
Non,
murmura Annabelle d'une voix faible. « Maintenant, je ne puis plus être votre femme. Vous êtes pourtant le seul que j'aimerai jamais. »« Mais que comptez-vous faire ?» demanda Paul. « Oh, je vais vendre mon mobilier, recueillir les épaves de mon patrimoine et chercher un emploi d'institutrice ou de dactylographe. » Paul se retira la mort dans l'âme. Mais il s'était juré à lui-même de n'avoir d'autre femme qu'Annabelle. Grâce à la vieille bonne irlandaise de la jeune fille, il était au courant de tout ce qu'elle faisait, et par l'entremise du docteur, il réussit à lui faire passer des sommes importantes qu'elle accepta, croyant qu'elles provenaient de la succession paternelle. Cependant, il semblait que la mort du brave Jonas eût été le prélude d'une série de crimes effroyables et mystérieux. Chaque matin, on relevait des cadavres toujours dépouillés de leur argent, mais sans qu'aucun d'eux portât la trace de violence. On pendit deux ou trois nègres et quelques Irlandais, certainement innocents. Rien n'y fit. La terreur était à son comble dans la ville. Les travailleurs menaçaient de faire grève. Ils ne rentraient plus qu'en troupe et n'osaient jamais s'aventurer au dehors, sitôt la nuit tombée. On parlait de maléfices diaboliques. Un Canadien affirmait avoir vu un soir un passant poignardé par un squelette qui lui avait enfoncé un fer rouge dans le cœur. Ces événements donnèrent beaucoup à réfléchir à Paul Martin. Il n'était, pour sa part, nullement superstitieux. Il devina que les meurtres qu'épouvantaient les constructeurs de la ville n'était dû qu'à un criminel habile, savant même, et bien informé, puisqu'il choisissait toujours ses victimes parmi les gens riches. Paul se jura de découvrir l'artiste escrime et de venger le père d'Annabelle. Mais il eut beau se livrer à de minutieuses enquêtes, se mêler au personnel des bars et des music halls, il ne découvrit rien. Pourtant, un fait demeurait précis. Toutes les victimes portaient derrière l'oreille ou sur la nuque une tache rouge à peine visible. Cela d'ailleurs n'expliquait rien. Paul avait des accès de rage froide. Il ne sortait plus sans un formidable revolver à 13 coups à balles d'acier qu'il portait à 90 mètres et dont le fruit était aussi, le tir n'était aussi juste que celui d'une carabine. Il allait de découragement renoncer à sa poursuite lorsqu'un de ses ouvriers électriciens lui fit part d'une découverte singulière. Certaines nuits, l'éclairage électrique des chantiers, en dépit du bon fonctionnement des appareils, pâlissait et menaçait de s'éteindre. Une fois même, une seule fois, les riveurs de Boulogne parachevaient la carcasse d'un 15e étage, furent plongés dans l'obscurité et il s'en fallut peu d'être précipités dans le vide. Paul était sûr que les machines ne présentaient aucune défectuosité. Alors comment expliquer ces interruptions? À force de réfléchir, il commença à discerner quelques vagues lueurs dans ce ténébreux mystère. Chaque fois que la lumière ou l'énergie s'était affaiblie pendant la nuit, un crime avait été commis. Il y avait corrélation entre les deux faits. Il est certain, se dit Paul, que l'on assassine les gens, qu'on les électrocute plutôt. Il ne s'agit que de savoir comment cela se fait. Oh, mais je le saurai. Dès lors, il annonça à tout son entourage qu'il était gravement malade. Ostensiblement, devant ses noirs et sa gouvernante, il se couchait de bonne heure, toussait et se plaignait. Mais dès que tout le monde était endormi, il s'habillait, s'armait et s'aventurait dans les décombres et les terrains vagues. Il se couchait derrière les tas de charbon à l'abri des piles de solives, d'acier, mais il ne découvrait toujours rien. Il rentrait à l'aube, furieux, exténué, couvert de boue jusqu'aux épaules, sans avoir vu autre chose que de banales querelles d'ivrogne. Et comme pour le narguer, presque régulièrement à la suite de ses escapades, son chef d'équipe venait lui annoncer une interruption du courant. Il était sûr ensuite de n'avoir qu'à ouvrir la feuille locale imprimée sous un hangar de carton goudronné par d'audacieux reporters pour y lire le récit d'un nouveau crime. Cela devenait une véritable obsession que son désir de capturer l'assassin tournait en idée fixe. Enfin, sa patience fut récompensée. Une nuit qu'il s'était couché et caché dans un vieux wagon oublié sur des rails pourris de rouille, au milieu d'un enclos à quelque part de l'unique passerelle qui traversait le George L. Creek, il assista à un terrible spectacle. Un homme s'avançait en titubant légèrement, comme pris de boisson. Il portait un portefeuille de maroquin rouge. Paul reconnut un des inspecteurs du syndicat, un inspecteur de personnages importants de la nouvelle ville. Une ombre s'élança soudain d'une encoignure, une ombre pareille à l'image même de la mort, avec une face hideuse et décharnée et un crâne poli. Un éclair bleu jaillit de la main du spectre. L'homme roula à terre, foudroyé, fut dextrement dépouillé, et puis tout rentra dans le silence. Paul avait maintenant tout compris. Il prit ses dispositions en conséquence. Quand Paul se retira, il titube légèrement. Mais l'ivrognerie est en Amérique un vice presque national. Personne ne songea à s'offusquer de l'incorrecte tenue du jeune homme. Une fois dehors, Paul, sans cesser de simuler la démarche extravagante d'un homme pris de boisson, se dirigea lentement vers la passerelle du creek. À sa grande satisfaction, il s'aperçut bientôt qu'il était suivi. Son cœur battait d'enthousiasme à la pensée de surprendre enfin l'auteur de tous les crimes commis dans la ville. Cependant, à la faveur de certains angles sombres, Paul, s'efforçant de n'être pas aperçu de l'inconnu qui le filait, procéda à une toilette spéciale de sa volumineuse serviette, qui d'ailleurs ne contenait pas la moindre banque-note. Il tira successivement des gants de métal treillissés, une sorte de casque dont il se coiffa, après l'avoir agrafé à une tunique de maille métallique qu'il portait sous son overcoat. Bien lui en prit d'avoir revêtu cette espèce de cuirasse. Au moment où il arrivait près du pont, un homme se jeta sur lui, brandissant une sorte de massue qui lui porta au niveau, au début de l'épaule, un coup violent, heureusement amorti par la cuirasse. Et au même instant, Paul se trouva entouré d'une véritable auréole de lumière électrique. On eût dit Saint-Georges ou quelque archange terrassant le dragon, tel qu'on le voit dans les anciennes peintures. Mais la lueur d'une lampe électrique dont il était entouré, Paul reconnut le docteur Karl Kram. Et avant que Paul fût revenu de sa surprise, son adversaire s'était rué sur lui. Et la lutte fut horrible. Un moment, il sentit les ongles pointus du docteur qui essayait de lui arracher un œil. Et pour le faire lâcher, il dut, avec ses dents, lui couper une veine du bras. Et tous deux étaient barbouillés de sang. Enfin, Paul fit rouler à terre son ennemi d'un coup de pied dans l'estomac. Le docteur ne donnait plus signe de vie. Paul crut la lutte finie et respira longuement. Il épancha le sang qui coulait de ses blessures et pendant quelques secondes, il se reposa sur un tas de pierres, si affaibli qu'il voyait tout tourner autour de lui et qu'il se sentait près de s'évanouir. Cet instant de faiblesse lui fut fatal. Le docteur n'avait pas été aussi grièvement frappé que Paul l'avait cru. Il avait réussi à s'emparer du revolver qui gisait dans l'herbe. Et au moment où Paul essayait de délacer son casque pour respirer un peu, le docteur se rua sur lui, s'assit sur sa poitrine, lui martelant le visage de coups de poing, et lui appuya le revolver contre la tempe. La vie du jeune ingénieur ne tint en cette seconde suprême qu'à quelques graviers qui s'étaient glissés dans le ressort de la gâchette lorsque l'arme était tombée dans la boue. Nerveusement, le docteur fit fonctionner le ressort. Paul comprit qu'il allait mourir, que son nom allait s'ajouter à la liste des victimes de l'assassin mystérieux. Mais tout à coup, ses doigts palpitants rencontrèrent dans l'herbe un cylindre de verre. « L'isolateur !» bégaya-t-il. Une voix rauque. Et d'un geste instinctif, il saisit le cylindre et le porta au visage de son ennemi. Une petite lueur jaillit et le docteur s'écroula sur son adversaire foudroyé, mort de la même façon, de la même mort dont il avait fait périr tant de victimes. Avec des efforts inouïs, Paul parvint à se dégager du cadavre qui l'oppressait et il constata que le manchon de verre qui n'avait pas lâché était relié par un fil aux gros câbles électriques qui alimentaient la lumière et d'énergie toute la ville. Comme il l'avait deviné, le docteur foudroyait ainsi ses victimes, laissant là le cadavre de l'assassin. Paul lava ses blessures dans l'eau froide du Greek et, sans perdre un instant, alla réveiller l'officier de justice et les magistrats et les mit au courant du drame dont il venait d'être un détecteur. En France, on aurait d'abord constaté l'identité du cadavre, mais en Amérique, on est plus pratique. Les magistrats commencèrent par perquisitionner au domicile du docteur, et dans un méchant coffre-fort encastré dans le mur, on trouva pour plus de 3 millions de dollars. Et chose curieuse, l'assassin avait étiqueté chaque valeur du nom de sa victime. C'est ainsi que Paul put lire sur une grosse liasse de banknotes Jonas Frequel, 17 décembre, date d'Annabelle. Paul Martin s'est marié il y a 15 jours. Il est en passe de devenir un de ces rois de la matière industrielle que la vieille Europe envie au nouveau monde.